d'annoncer. Veuillez dégager le vide ordure, s'il vous plaît, et ne pas laisser les enfants s'amuser avec les fils à haute tension. Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 et je viendrai relever le compteur de ton ennui. Il te faudra sans doute changer de tête et puis brancher ton cerveau sur ton cœur. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant.
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Otis, on veut voir ça. On veut voir ça. Tu dis que tu es capable de soulever ce poids de 474 kilos. On veut voir ça.
Eh oui, mesdames et messieurs. Monsieur, moi, Otis, le grand Otis. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais le soulever, ce poids de 474 kilos.
Bonjour, auditeurs, auditrices. Désolé pour les palindromes de Gérard Durand, notre ami que nous remplaçons depuis une année maintenant et que nous pensons énormément à lui. Bonjour, Elsa.
Bonjour, papa. Bonjour, chères auditrices. Bonjour, chers auditeurs.
Il y a un petit problème avec le CD. Bon, avec, peut-être, comme on dit en langage photographique, une pétouille, c'est-à-dire un petit point blanc dans du noir. Voilà. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de textes à vous lire. Déjà, l'édito du dernier Union Pacifiste qui est sorti, qui est de septembre-octobre, couplet. Mm-hmm. Et Elsa aussi avec des textes à lire sur Poutine, sur des problèmes de plastique et aussi la crise céréalière organisée par Poutine pour affamer le monde africain, il me semble.
En effet, ainsi que des articles. Il s'agit d'articles qui ont été écrits en été, donc au mois de juillet. Mais les conséquences sont d'actualité. Les répercussions, on les ressent aujourd'hui. Donc, juillet, août, septembre, octobre. C'est article écrit 3 mois avant, mais conséquences bien actuelles aujourd'hui. Donc, en effet, il y aura donc une balance entre Union Pacifiste, la bannière et ces articles que nous avons eu l'occasion d'imprimer à la suite de la signature d'une pétition contre les actes de Poutine.
Bon, ben, tu vas commencer par l'édito de la bannière.
Oui, oui, oui. L'édito écrit par Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Il est temps de faire payer les responsables. Nous avons été confrontés de nouveau ces dernières semaines à une multiplication d'événements climatiques extrêmes. Pics de chaleur inédits en Europe et outre-Atlantique, inondations meurtrières en Asie ou méga-feux de forêt au Canada. Plus personne n'est à l'abri des conséquences du changement climatique. Pourtant, le lien entre ce fait scientifique et ces événements dévastateurs n'est encore pas assez établi dans les médias ou dans nos conversations avec nos proches. La question des responsabilités est pourtant capitale. D'après le GIEC, les industries des énergies fossiles ont produit 86% des émissions mondiales de gaz à effet de serre pendant la dernière décennie. Ce sont elles les principales responsables. Le GIGC et l'Agence internationale de l'énergie sont catégoriques. Plus aucun projet d'énergie fossile, gaz, pétrole, charbon, ne doit voir le jour. C'est possible, à condition d'enclencher rapidement en parallèle une transition énergétique fondée sur la sobriété et les énergies renouvelables, avec des aides financières pour les plus démunis. Charge au gouvernement de la mettre en œuvre, sans oublier de faire payer les multinationales des fossiles qui engrangent des milliards de bénéfices chaque année. Une question de justice, en premier lieu, pour les pays les moins responsables du changement climatique et les plus durement touchés. Et le premier article à la une de la bannière concerne le gaz de schiste, la France sous perfusion. Malgré ses engagements climatiques, la France continue d'aggraver sa dépendance au gaz, notamment au gaz de schiste américain. Le nouveau terminal méthanier du Havre est le parfait exemple de la politique incohérente du gouvernement. Sortir la France des énergies fossiles, c'est la promesse faite par le président Emmanuel Macron en février 2022. Pourtant, 6 mois plus tard, un nouveau projet d'infrastructure gazière est validé en toute hâte, le terminal méthanier flottant du Havre. Ce bateau-usine, appelé Cap Anne, devrait rester à quai pendant 5 ans dans le but d'accueillir d'autres bateaux chargés de gaz naturel liquéfié, GNL. Principalement en provenance des États-Unis. Greenpeace France a mené l'enquête avec le média Disclose pour déterminer si ce nouveau projet toxique est vraiment essentiel à la sécurité énergétique du pays et à celle de nos voisins européens, comme le soutient le gouvernement. Son utilité, nous la cherchons encore. Notre investigation prouve que ce nouveau méthanier est superflu car la France a déjà les capacités de recevoir les quantités de gaz dont elle a besoin. Le seul bénéficiaire de ce projet est en réalité son opérateur, Total Energy, qui détient 50% de ses capacités. La multinationale, dont la stratégie repose notamment sur le GNL, a clairement fait pression pour la mise en place de cette nouvelle infrastructure gazière en France. Le gouvernement a donc encore une fois décidé de faire passer les intérêts privés d'une entreprise avant la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la population. Le gaz n'est pas une énergie de transition. Si le gouvernement veut tenir ses engagements climatiques, la consommation française d'énergie fossile doit nécessairement diminuer. Pourtant, au lieu de proposer une vraie trajectoire de sortie des combustibles fossiles, la politique énergétique de la France encourage le développement de nouveaux projets nuisibles au climat, comme ce terminal méthanier, qui vont augmenter les importations de gaz en France et en Europe. De fait, elle entraîne la hausse de la production de cette énergie fossile partout dans le monde, et notamment aux États-Unis. Le problème avec le gaz américain, la majeure partie, 80% du gaz produit là-bas est du gaz de schiste, c'est-à-dire un gaz extrait par fissuration de la roche pour en récupérer le méthane. Cette technique d'extraction, dite par fracturation hydraulique, est particulièrement problématique car elle est dangereuse pour le climat et pour l'environnement. En effet, elle nécessite énormément d'eau et implique l'utilisation de produits chimiques très polluants qui sont ensuite rejetés dans les nappes phréatiques. Pour être exporté vers l'Europe et notamment la France, ce gaz de schiste doit ensuite être transformé sous forme liquide. C'est ainsi qu'il devient le gaz du gaz naturel liquéfié, GNL, encore plus émetteur de gaz à effet de serre que le gaz transporté par gazoduc. Très dangereuse pour la santé, l'extraction de gaz de schiste met également en danger la vie des populations locales. Au Texas, au Nouveau-Mexique et en Louisiane, les projets gaziers ont engendré une détérioration de la qualité de l'air, une contamination de l'eau et une augmentation du risque de maladies respiratoires, de problèmes à la naissance et de cancer. Avec un S, hein, donc c'est large. Les communautés les plus pauvres qui vivent à proximité des sites d'extraction sont les premières touchées. Grand défenseur de ces dernières, l'activiste John Bird rappelle que le gaz propre n'existe pas. Il a un coût. Ce coût, c'est la vie et la santé des habitants du sud du golfe du Mexique et des conséquences climatiques mortelles dans le monde entier, comme la multiplication des incendies ou des canicules extrêmes. Pour protéger sa population et ses écosystèmes, la France a interdit en 2011 l'extraction de gaz de schiste sur son territoire. Pourtant, aujourd'hui, grâce à ce nouveau terminal méthanier du Haut Havre, elle peut continuer d'en importer dans l'hypocrisie la plus totale, mettant en danger les communautés riveraines des sites d'extraction et aggravant le dérèglement climatique. Alors, l'enquête complète peut être retrouvée sur ACT, alors en petit caractère, ACT.gp, / méthanier, METHANIER. Le tout en petit caractère.
Nous allons réécouter notre ami Gérard Durand.
Ha 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 ha! Otis, on veut voir ça! On veut voir ça! Tu dis que tu es capable de soulever ce poids de 474 kilos? On veut voir ça!
Eh oui, mesdames et messieurs, moi, Otis, le grand Otis, vous allez voir ce que vous allez voir! Je vais le soulever, ce poids de 474 kilos, comme une plume. Ah, on y va! C'est lourd quand même, c'est lourd. Je transpire. J'abandonne.
Otis. Ce vantard prétendait soulever ce poids comme un sac de plumes. Mais, à l'acte, aussitôt, Otis sua et cala. À l'acte, aussitôt, Otis sua et cala.
Excuse me.
Ah ben, il finit bien. C'eût été dommage de louper ce palindrome de notre ami Gérard Durand. Voilà. Donc, je vais vous lire l'édito du dernier Union Pacifiste, écrit par Maître Yves Lecard, bien sûr. Les zimouroïdes. On me pardonnera, vu l'importance du sujet, de l'objet, de l'abject, d'attaquer cette nouvelle saison sur un plan médical. Mais j'ai constaté, je ne suis pas le seul sans doute, que certaines épidémies, voire pandémies, sont récurrentes. On la vit dure, des virus, des verrues, des stigmates que l'on croyait à jamais éradiqués reparaissent ici et là, toujours plus vivants, toujours plus forts. La raison en est due sans doute au climat social et politique, climat racial et holistique, climat spécial et pathétique, plein de réchauffement, même si cela en refroidit certains. Le peuple, lassé de se faire abuser, baiser, sodomiser au sens figuré, voire défiguré par certains transfigurés, France fissurée, réagit et les perturbateurs endoctrinés. Les endoctrineurs, perturbés au choix, récupèrent la clientèle, la patientèle. Patience, elle n'est plus elle ne l'est plus, la foule. Mais malade, oui, complètement malade. Et les réseaux dits sociaux, hors des raisons sociales, des résidus spéciaux, alimentent les cerveaux atteints en les relayant tous les poncifs poussifs. Le dernier en date de ces virus virulents, non encore répertoriés, quoique polluants, purulents, flatulents, ambulants, répulsants, nous l'appellerons conarovirus, en référence à l'un de ses prédécesseurs qui n'a pas cessé d'obséder la chronique journalistique. Alors, dans le même temps, le successeur, dont il est question aujourd'hui, l'attend depuis les temps immémorables et immémoriaux et immoraux, ont fait tout autant de ravages, de bravaches, de lavages de cerveau, de façon plus insidieuse. Il faut dire que les pinces sans rire qui le gouvernent, le peuple populo, le vulgus pecum, n'y vont pas de main morte. Les chaussettes à clous, chères à Boris et à Boré, ne sont pas issues d'un laboratoire chinois, mais d'un isoloir. Pas né d'hier, le virus, la larve, tout comme la cigale, reste sous terre plusieurs années, mais quand s'ouvre la chrysalide, la crise solide, ce n'est pas la même chanson que notre insecte provençal. Le virus est transmis par des acteurs dirigeants censés préserver le peuple contre ce genre de dérive. Pourtant, même le vocabulaire en est tout perturbé, à tel point que les mots en perdent leur sens initial. Ainsi, voit-on des tireurs d'alarme, des sonneurs d'alerte, des humanistes soucieux de préserver la planète et le bien-être de ses locataires, de ses vacataires qualifiés de terroristes, à l'instar de tueurs patentés. Les montrant du doigt comme dangereux, délinquants, à mettre hors d'état de nuire lorsque c'est l'État lui-même le plus qualifié pour nuire. Cependant, que à l'autre bout de l'échiquier, les pustules de l'arrêt politique, zémoroïdes et assimilés, s'installent, se rapprochent de plus en plus du palais, du trône, du gouvernail. Et les mercenaires, les miliciens, les robocops assermentés peuvent désormais exercer leur violence, leur haine, en toute impunité, tels des tréponèmes, palladiums, dont le simple contact peut conduire le patient à la mort. Ça s'est vu, ça se voit encore. Méfions-nous, ce mauvais microbe agit dans les bassines, mais pas seulement. Le phénomène, semble-t-il, est mondial. Malheur à qui veut aider son prochain, par exemple, à lui tendre la main au sortir de l'eau. Il est plus dans l'air du temps de repousser du pied cet humain, venu d'ailleurs. La France est encore une altération du vocabulaire patibulaire, devient de plus en plus une terre d'accueil. À titre d'exemple, la nouvelle préfète d'Avignon, en bas de la France, vous voyez, s'en donne à cœur joie pour signer presque systématiquement des OQTF. Ça veut dire obligation de quitter le territoire français, que son prédécesseur s'efforçait de limiter au maximum. Est-ce le cas dans toutes les préfectures qui riment avec forfaiture, entre autres? Avignon, cet été, a accueilli, comme chaque année, mais avec un nouveau directeur, ses festivaliers. Certains de mes amis, que je ne dénoncerai pas, ils se reconnaîtront, n'ont pas pu s'y rendre, comme ils le font chaque année depuis la Saint-Clinclin. Dommage. N'empêche qu'en plein festival, le 14 juillet, une poignée d'utopistes, dont je fus, désireux de redonner au peuple cette journée usurpée par la clique patriotique, et de dénoncer du même coup la guerre, les ventes d'armes, a déroulé ses bannières pacifistes. Outre votre serviteur, qui s'est fendu d'un petit discours pour expliquer, citant Lecoing, Monod, Cabu, nos positions de pacifisme intégral. Il y avait le mouvement de la paix et le POID, dont les positions, disons-le, ne sont pas les nôtres. Au moins, nous retrouverons-nous sur le rejet du SNU et le refus de la guerre en Ukraine. malheureusement, en plein festival où chaque troupe défile en parade pour préserver son spectacle, je me demande quel impact nous avons pu avoir auprès des festivaliers. Ne nous a-t-on pas pris pour des comédiens ? Pour finir, puisqu'il paraît que la France, terre d'accueil du fric, va recevoir les Jeux Olympiques épiques et collégrammes, je voudrais rendre un hommage mérité qu'aucun média ne lui a rendu, à Henri Tachant, décédé en toute discrétion cet été et qui a bien des reprises à dénoncer en chanson la bêtise et son corollaire. La guerre après les drapeaux, je choisis une des plus fortes. Ce serait chouette, les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée. Si, nom de Dieu, il n'y avait pas leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, cacadois des frontières, leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire. Yves Lecard.
Aïe aïe aïe, ouïe ouïe, y'en écrit des bafouilles. Ça fait cri-cra, cri-cra, suffit d'un bout de papier, d'un crayon bien taillé, des petits mots, mine de rien, des petits mots, ah je te tiens, qui font cri-cra, cri-cra, lâchés du bout de la main, ils s'envoleront demain. Mais faut pas les manquer. Des petits bouts, des petits bouts, des petits riens. Mais bon comme du bon pain. Oui, 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 aïe, 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 la terre est en bataille. Elle fait cri-cra, cri-cra, qu'elle aimerait qu'on s'en aille. Mais nous, on la travaille, non, c'est pas des petits mots qui lui donnent aussi chaud. Qui lui font faire cric-crac, c'est du toujours plus gros qu'on lui fout sur le dos. C'est du plus, toujours plus, du plus fort comme Hercule. Si t'avances pas, tu recules ou tu restes un minus. Un petit bout, un petit bout de chou, un petit rien, mais bon comme tu. Bon pain. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe, les mots sont en vadrouille. Plus de cric-crac, cric-crac, réécrit si souvent. Les mots s'en vont au vent, des petits mots qui frissonnent, qui font de mal.
Je veux dire le truc de Bolloré.
Et si t'entends cric-crac, léger dans l'atmosphère,
musique, il n'y a pas ce rapport.
Il n'abîme pas la terre. Des petits mots pour pas cher, croustillant sous la dent, ou chocolat. Des petits bouts, des petits bouts, des petits riens, mais bon comme du bon pain.
Eh oui, nous avons écouté Aïe Aïe Aïe, tiré du dernier album de Nathalie Solens, Comment te dire ? Et vous pourrez vous le procurer durant le samedi 14 et dimanche 15 octobre, donc c'est très les week-ends prochains, voilà, à Couleur d'Orange, 9 rue Barbès, métro Robespierre, c'est à Montreuil. Il y aura des livres, des expos, des débats et des animations musicales et des chansons. Donc, vous pourrez retrouver aussi certains animateurs de l'Union pacifiste qui font notre radio. Donc, là, vous pourrez retrouver son dernier disque et aussi d'autres choses qu'elle a écrites, des livres aussi. Voilà. Couleur d'Orange, le samedi 14 et dimanche 15 octobre, de 14h à 19h, les deux jours, comme ça. Là, je vais vous lire quelque chose qui s'est passé déjà cet été, déjà qui vraiment m'a beaucoup bouleversé. Déjà, la dramatique éradication du personnel du journal du dimanche, dont j'ai fait partie. À l'époque, je n'étais pas journaliste, mais j'étais employé d'étage, et je m'occupais de distribuer les journaux, le courrier, les magazines, plein de choses, et j'avais de très bons rapports avec les journalistes. Voilà. Alors, comme on sait que c'est M. Vincent Bolloré qui a racheté petit à petit tout le groupe Hachette, en mettant de côté son dernier représentant, comme ça, Arnaud Lagardère, qui vraiment a détruit tout ce que son père avait créé dans la presse. Voilà. Alors, je vais vous lire le texte. Alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir en France, Vincent Bolloré amplifie la diffusion des idées rances, racistes et xénophobes au point de reconfigurer notre espace public. Il est urgent de stopper cette ascension, mais ce serait une erreur de s'en tenir à ce cas. Ingérence des actionnaires dans les affaires éditoriales, procédure bâillon lancée par des patrons désireux de museler la critique. Censure préalable, nous ramenons aux heures sombres de l'ancien régime. Violence policière contre des journalistes lors des manifestations, requis d'accès de partis politiques à leurs meetings. Les attaques contre un journalisme indépendant sont incessantes et multiformes. Seule une remise à plat de notre écosystème est à même de le contrer. Le combat pour une information indépendante et pluraliste ne peut être collectif. Mediapart, on est convaincu. Et justement, en ce moment, on essaie de le bâillonner. Mediapart, on est convaincu depuis sa création. C'est pourquoi nous tissons des liens éditoriaux et financiers avec des journaux, parmi lesquels Mediacité, Mars Actus, Le Poulpe, Rue 89, Strasbourg et La Déferlante, qui partout en France défendent les mêmes principes que nous. Nous nous impliquons dans les activités du syndicat de la presse indépendante et d'information en ligne, le SPIL, SP2IL, dont nous sommes membres fondateurs. Via le fonds pour une presse libre, le FPL, nous soutenons les projets des médias indépendants grâce à des appels aux dons organisés chaque année. Cette bataille est la vôtre. Elle ne se gagnera qu'avec son soutien. C'est pourquoi nous avons fait de cette question dramatique, démocratique, un des motifs récurrents de nos rencontres publiques avec vous. Nous poursuivons cet automne notre Tour de France, débuté à l'occasion de nos 15 ans au printemps dernier, et nous donnons rendez-vous à Rennes le 9 septembre à Poitiers, le 30 septembre, à Clermont-Ferrand le 7 octobre, à Grenoble le 14 octobre, à Villeurbanne le 28 octobre, à Toulouse le 18 novembre, à Bordeaux en novembre, à Lille le 2 décembre et hors de nos frontières à Bruxelles le 16 décembre. Nous répondrons à toutes vos interrogations sur notre mission d'intérêt public, nos engagements et notre fonctionnement. Vous, lecteurs, lectrices, vous avez le droit de savoir. Nous vous devons des comptes tant que nous comptons sur vous pour nous soutenir dans le combat d'une presse libre. Voilà, ça c'était Mediapart qui faisait part. Maintenant, parlons du JDD. Après un été marqué par la reprise en main dramatique du JDD, la rentrée va être rythmée par le lancement d'états généraux de l'information, annoncé pour le mois de septembre. À l'occasion pour Mediapart de défendre encore une fois son modèle et l'importance fondamentale d'une presse libre et indépendante pour notre démocratie, ce combat est aussi le vôtre. Mobilisons-nous pour le droit de savoir. La vitesse avec laquelle le milliardaire Vincent Bolloré est parvenu à vider de sa substance un titre de presse fondé il y a 75 ans est vertigineuse. On sait que le JDD était le France Dimanche du dimanche. C'était une partie des journalistes de France Soir qui ont été détachés pour créer ce journal. Et, ouais, et voilà où ça en est. C'est déplorable. Les 40 jours de grève des journalistes du JDD n'auront pas suffi à empêcher la prise en fonction de Geoffroy Lejeune, figure revendiquée de l'extrême droite, proche d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal, en plein cœur de l'été. Dans une rédaction dépeuplée, aujourd'hui grand placée, selon l'expression d'un des concernés, cet épisode rappelle avec fracas la fragilité des collectifs journalistiques face aux puissances d'argent prédatrices. Il rend plus nécessaire que jamais l'instauration de garde-fous législatifs, au premier rang desquels l'approbation et la révocation des directeurs éditoriaux par la rédaction. Alors que doivent s'ouvrir cette rentrée des États généraux de l'information, le silence coupable de l'Élysée, qui a laissé faire sans mot dire, a de quoi s'inquiéter. On serait tenté de parler de non-assistance à démocratie en danger, car, rappelons-le, puisque l'exécutif ne l'a pas fait, l'indépendance des journalistes par rapport aux actionnaires, aux annonceurs, aux GAFAM et aux pouvoirs publics est un prérequis dans une démocratie digne de ce nom. Mais d'à part, on a fait le socle de son modèle. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Ce slogan traduit notre conviction que l'absence d'interférence politique et économique est une condition sine qua non de l'exercice de notre métier. Un journal sans publicité, sans actionnaires milliardaires, sans financement des plateformes, sans aide publique, telle est notre force intrinsèque, celle sur laquelle repose notre lien de confiance avec nos lecteurs et lectrices. Sur fond de mutations technologiques profondes, le contexte du lancement de ces États généraux, 15 ans après le précédent raté de Nicolas Sarkozy, est celui d'une dégradation continue. L'accélération de la concentration des médias dans la main de quelques industriels de luxe, des télécoms, de l'armement, entre autres, met en péril le pluralisme de notre secteur, en formatant les regards sur le monde. L'emprise de ces acteurs dans la presse n'est pas le métier, s'inscrit non pas dans une logique industrielle de développement et de rentabilité, mais dans une recherche d'influence, et favorise le développement d'une presse d'opinion qui participe au dévoiement de notre démocratie. À un moment où la défiance à l'égard des médias n'a jamais été aussi grande, à un moment aussi de profusion, notamment sur les réseaux sociaux, des fausses nouvelles et des discours de haine, la recherche de la vérité, des faits, est plus que jamais indispensable. Seul un journalisme respectueux de nos fondamentaux professionnels, par la pratique de la vérification, du recoupement et du contradictoire, dans le respect de la protection de nos sources, peut nous permettre de publier des informations d'intérêt public. En ce faisant, de jouer notre rôle auprès des citoyennes et des citoyens qui ont le droit de savoir et qui est fait en leur nom. Voilà. Merci Mediapart.
On leur fera bouffer de la merde depuis leurs plus tendres années. Ça formera leur goût de merde, plus tard ils s'en feront livrer. Ils auront le choix de la merde comme un parfum de liberté. Y'a tellement de gens dans la merde, faut bien nourrir l'humanité. Ah, 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 la voilà la jolie merde, en bar, en barquette, en sachet. De la merde élevée sous la merde, à poil la plume en bâtonné. Les écolos, on les emmerde, ils dramatisent en vérité. Même la vérité, on l'emmerde, y'a que le profit en vérité. Hé, 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 hé. ils feront des maladies de merde que nos labos pourront soigner. À coups de cachet, de cache-merde, l'idée c'est de les faire durer. Il ne faudrait pas qu'on les perde avant de les avoir saignés dans nos jolies EHPAD de merde que l'on construira par milliers. Hé, 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 hé. À la voilà la jolie merde bien alignée dans la télé. Ils s'éteindront dans cette merde comme un mégot dans le cendrier. Lanceurs d'alerte, on vous emmerde, vous nous faites bien rigoler. Vous pouvez remuer la merde, on sait comment la recycler. À force d'avoir aux yeux de la merde, dans les oreilles, dans les trous de nez, diront que tout ce qui est pas de la merde, en vérité, eh ben, c'en est. En quittant cette vallée de merde, on leur vendra l'éternité. Mais c'est du pipeau que de la merde, car les dieux aussi sont mouillés. Ah 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 ah, à la voilà la jolie merde, tant qu'il y a de la vie, faut l'exploiter. En tirer toujours plus de merde, ils n'auront pas fini d'en chier. Les complotistes, on les emmerde, sont tellement loin de la vérité. Même la vérité, on l'emmerde, y'a que le profit en vérité. Et même si on plonge dans la merde, on en aura bien profité. Et même si on plonge dans la merde, on en aura bien profité. On en aura bien profité. On en aura bien profité.
Eh bien, c'est le... C'est une jolie merde, tirée de dernier album de Rémi Tarrier, Drôle de genre.
Eh ben, avant d'enchaîner avec le deuxième article à la une de la bannière, je vous recommande, après la lecture du devenir du JDD, je vous recommande comme film Un la seule n'a pas de poche de Jean-Pierre Mocky, qui parle justement de la liberté de la presse en danger. Et aussi, Le complot des Matarès de Robert Ludlum. Prenez le soin de regarder les deux, de lire l'un, de regarder l'autre, et vous verrez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est...
On est en plein dedans.
Oui, carrément. Jusqu'à la pointe des cheveux, la pointe des ombres et le bout des dents. Alors... Le monde dans tous ses états, plastique à qui profite le crime? Comment faisait-on avant sans plastique? On se le demande tant ce matériau est devenu aujourd'hui omniprésent. Cependant, si l'on veut éradiquer la pollution qu'il cause, la question que nous devrions nous poser est la suivante. Pourquoi le plastique a-t-il envahi notre vie? Le plastique s'immisce partout, du sommet des montagnes jusqu'aux océans. Un sac en plastique a même été retrouvé dans la fosse des Mariannes, à près de 11 000 mètres de profondeur. Les microplastiques, issus de la dégradation du plastique, ont contaminé notre environnement, notre eau, nos aliments et donc notre organisme. De récentes analyses scientifiques ont révélé leur présence jusque dans nos veines. Au vu de l'ampleur des dégâts, la communauté internationale s'est emparée du problème. Un traité mondial contre la pollution au plastique doit être adopté l'an prochain par les Nations Unies. La dernière session de négociation a eu lieu à Paris, au printemps dernier. À la clôture des débats, mandat a été confié aux négociateurs de rédiger une première ébauche du traité d'ici à la prochaine réunion qui se tiendra au Kenya en novembre. Toutefois, les discussions ont été houleuses et l'échec a été évité de peu. À la manœuvre, le lobby pétrochimique. Pourquoi cette industrie a-t-elle essayé de faire capoter les négociations? Parce que le plastique est fabriqué à partir de combustibles fossiles, à 99% d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, essentiellement de pétrole. Si un traité ambitieux voyait le jour pour limiter la production de plastique et la pollution qu'il cause, les profits juteux de cette industrie seraient remis en cause. Le plastique est du pétrole déguisé. Un baril de pétrole n'étant pas entièrement constitué de composés permettant de produire des carburants, les industriels ont dû trouver des débouchés pour rentabiliser les sous-produits moins nobles. Ainsi, sur les 159 litres que contient un baril de brut, 4 sont destinés à la pétrochimie. Avec une production mondiale d'environ 100 millions de barils par jour, imaginez le manque à gagner. Bien entendu, il faut aussi que ces sous-produits puissent être écoulés au fur et à mesure pour ne pas devoir être stockés. Quoi de mieux pour cela que les emballages et autres objets en plastique à usage unique ? C'est ainsi que le plastique a triomphé et que nous sommes entrés dans l'ère du tout jetable. À partir des années 1970, les industriels ont redoublé d'ingéniosité pour créer de nouveaux marchés et s'immiscer dans de nombreux secteurs comme l'emballage, mais aussi le vêtement, l'automobile, l'aviation, la santé, etc. En réalité, le plastique est en passe de devenir la poule aux œufs d'or des secteurs pétroliers et pétrochimiques. C'est abordé dans le film Le Lauréat. Un court passage. Une croissance exponentielle est attendue dans les années à venir. D'après l'Agence internationale de l'énergie, AIE, la production pétrochimique devrait augmenter de 60% d'ici à 2050. Ainsi, à cet horizon, le plastique sera devenu le principal débouché de l'industrie pétrolière devant les transports. Les émissions de gaz à effet de serre liées au plastique devraient doubler d'ici à 2060, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Outre son effet sur le climat, la production de plastique pose le problème insoluble des déchets. D'après l'ONU, nous produisons 400 millions de tonnes de déchets de plastique par an et chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est rejeté dans nos océans. Le recyclage ne semble pas apporter de solution. Moins de 10% du plastique produit dans le monde est recyclé. La vraie solution, c'est de prendre le problème à sa source, c'est-à-dire réduire la production de plastique. Le traité mondial en cours d'élaboration à l'ONU devra prévoir de plafonner immédiatement et de réduire graduellement la production de matières plastiques, ainsi que d'éliminer progressivement la production de plastique vierge non transformé. La bataille est donc engagée à l'échelle internationale pour faire passer les intérêts du climat, de la planète et de ses habitants avant ceux des industriels du pétrole et de la pétrochimie. Alors, quelques chiffres de quoi vous faire dresser les cheveux. 10 milliards d'euros, c'est le montant investi par Total Energy pour la construction d'un complexe pétrochimique géant en Arabie Saoudite. 20 entreprises produisent 55% des déchets de plastique dans le monde, d'après une étude menée par des scientifiques australiens et britanniques. Le géant pétrolier ExxonMobil arrive en tête du classement, suivi par Dow, premier fabricant mondial de produits chimiques, et par le groupe pétro-gazier chinois Sinopec. 5 grammes, c'est le poids de plastique que nous ingérons chaque semaine via les aliments et l'eau polluée que nous consommons, soit l'équivalent d'une carte de crédit d'après le WWF. 7e continent, encore appelé vortex ou soupe de plastique. Il se situe dans le nord-est de l'océan plastique, de l'océan Pacifique. Pardon du lapsus. D'après les dernières estimations scientifiques, les déchets de plastique qui le constituent, amassés par les courants océaniques, s'étendaient sur plus de 1,6 million de kilomètres carrés, soit 3 fois la taille de la France. Alors, un site internet existe pour agir à votre échelle et réduire vos déchets. Il s'agit de zerovastefrance.org. Alors, déjà, c'est en tout petit caractère et tout attaché. zerovastefrance.org. Voilà, si vous souhaitez participer en limitant votre consommation de plastique.
Futile, facile, fragile, agile aussi, sauvage, saccage, trucage, courage à bord, tonique. casse un peu. Juste pour le plaisir de prononcer des mots qui sortiront tout seuls comme un souffle d'air chaud. Ma voix est un ruban qui vole au gré des vents, déroule ses couleurs dès le soleil et le vent. Mais que les vents retombent et le ruban s'accroche au travers des branchages, s'accroche et s'effiloche. La voix pleurante danse, se noue et se retire, tandis que le ruban distendu se déchire. Fissure, fracture, murmure, endure à tort. Silence, immense, faïence, urgence en plus. Soupir, sourire, fou rire, respire alors. Étrange, mélange, dérange, échange un peu. Juste pour le plaisir de prononcer des mots qui couleront tranquilles comme l'eau d'un ruisseau. Ma voix s'était perdue pour des raisons confuses, une erreur de circuit, un cerveau qui refuse. Un jour de commander, de dispatcher ses ordres, et le corps aux abois tel un chien voudrait mordre. Mais plus il vocifère, acharné, volontaire, et plus le mal empire, l'obligeant à se taire. Furtive, craintive, chétive, esquive ou presque, farouche, retouche, patouche, accouche à cœur, bascule, recule, calcule, circule enfin, histoire, bizarre, victoire, et croire un peu. Juste pour le plaisir de prononcer des mots qui passeront la porte comme on part à vélo. Pour ces voix mal en point, un seul remède existe, on les pique au botox et plus rien ne résiste. La voix est empêchée, voilée paralysée, une voix de repos squelettique ou brisée, qui reprend ses couleurs au bout d'un certain temps, et ce trois fois par an pour moi pendant 8 ans. Frissonne, ronronne, détonne, questionne encore, sincère, sévère, légère, entière en bouche, stratège, protège, manège, que sais-je au juste, contente, charmante, méchante, et chante un peu. Juste pour le plaisir de prononcer des mots articulés sans peine et lâchés sans accroc. Fatigué de choisir entre dire et chanter, d'aller car un carat, de toujours s'adapter. Ma voix vole à nouveau tel un oiseau blessé, tantôt filant tout droit, tantôt bien cabossé. Prenez-la comme elle est sans vous y arrêter, c'est le plus beau cadeau qui peut m'être apporté. Futile, facile, fragile, agir aussi.
Encore une chanson tirée de chez Nathalie Solange, comment te dire, facile. Voilà. Donc, Elsa, tu vas nous lire quelque chose de très important.
Article datant du 20 juillet 2023. Ukraine, l'attaque du port d'Odessa par la Russie préfigure une crise mondiale désastreuse. En réaction à l'attaque par les forces armées russes de l'infrastructure portuaire d'Odessa et de ses silos céréaliers, et à la menace à peine voilée d'attaquer les navires qui tentent de transporter des céréales ukrainiennes, Anna Wright, chercheuse sur l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré « L'attaque de la Russie contre des entrepôts de céréales dans le port d'Odessa, à la suite de son retrait de l'accord sur les céréales de la mer Noire, risque de faire monter d'un cran la crise mondiale déclenchée par la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine et de la porter à des niveaux encore plus désastreux. L'Ukraine est un fournisseur majeur de céréales à un niveau mondial et assure la majorité des importations de céréales en Afrique de l'Est et australe. L'interruption par la Russie des exportations ukrainiennes de céréales et la destruction en une seule frappe d'au moins 60 000 tonnes de céréales et d'importantes infrastructures d'exportation risquent de provoquer la famine dans des pays qui souffrent déjà de sécheresse et de crise humanitaire. En outre, la Russie a menacé de traiter tous les navires se rendant dans les ports ukrainiens via la mer Noire comme des transporteurs d'équipements militaires, ce qui témoigne de sa volonté de priver les plus démunis de denrées alimentaires essentielles pour atteindre ses propres objectifs militaires et indique clairement que les forces russes sont prêtes à commettre de nouveaux crimes de guerre. En intensifiant ainsi sa guerre d'agression, la Russie prend en otage certains des pays aux revenus les plus faibles du monde pour leur imposer son agenda militaire et politique. Il faut que la Russie mette fin d'urgence à sa guerre d'agression en Ukraine et que tous les responsables présumés de crimes relevant du droit international rendent des comptes dans le cadre de procédures équitables. Par ailleurs, la communauté internationale doit prendre des mesures afin de garantir des routes commerciales sûres pour les céréales ukrainiennes en vue de les acheminer vers les régions qui en dépendent pour leur sécurité alimentaire. Eh bien, bel exemple d'arme verte. Courrier international. Vu du Burkina Faso, céréales ukrainiennes, Poutine va-t-il condamner l'Afrique à se serrer la ceinture? Le refus de la Russie de prolonger l'accord qui permettait l'exportation des céréales ukrainiennes soulève de nombreuses craintes en Afrique, car il provoquerait une forte hausse des prix. Ainsi que se profile le sommet Russe-Afrique, le président russe, isolé sur la scène diplomatique, peut-il se permettre de s'aliéner ses amis africains, se demande aujourd'hui au Faso. À l'heure où ces lignes sont tracées, Moscou maintient toujours mordicus son refus de prolonger l'accord céréalier ukrainien obtenu il y a juste un an, en juillet 2022. Lequel modus vivendi expirait le lundi 17 juillet dans la soirée. La raison de ce blocus, selon Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, est que les conditions ne sont pas remplies pour débloquer la situation. En clair, il y a des entraves aux exportations du blé, des fertilisants et autres matières premières russes, accusées l'Union européenne. Si la Russie ne lève pas cet embargo, le prix du pain, des pâtisseries et de plusieurs autres produits, y compris l'agriculture dans son ensemble, va flamber. D'où une inflation imparable. Quid de l'Afrique dans cette histoire d'accord céréalier? 33 millions de tonnes. Sur les 33 millions de tonnes exportées depuis l'année dernière par l'Ukraine, 3% ont profité aux pays africains et aux autres pays du Sud. 3%, ça paraît infime, mais cela représente quelque chose d'essentiel pour le continent. Alors si l'accord céréalier n'est pas reconduit, la valse des prix des denrées sera haussière et l'inflation sera forcément à deux chiffres. Les pays du Sud, notamment africains, dont beaucoup dépendent des engrais russes et ukrainiens, seront obligés de faire dans la subvention tous azimuts. Surtout pour certaines cultures de rente comme le coton, des pays tels le Burkina, le Mali, le Bénin, qui sont cotonniers, subventionnent l'or blanc. Or, ce sont les fonds qui manquent le plus. Ils sont déjà très endettés, poursuivis par les créanciers, Chine, Club de Paris, et leurs budgets sont biberonnés par des aides additionnelles bilatérales ou du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un non-accord maintenu sera une catastrophe pour les Africains. Alors, question. Le président Poutine va-t-il maintenir cette position au risque, sinon d'affamer les Africains, au moins de leur faire serrer davantage la ceinture? À quelques semaines du sommet Russe-Afrique de Saint-Pétersbourg, les 27 et 28 juillet, le maître du Kremlin Va-t-il ? Et peut-il ignorer des amis africains tels que le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, l'Algérien Abdelmadjid Tebboune, ou le Centrafricain Touadéra, ou encore le Malien Goïta et le Burkinabé Traoré. Si par contre Moscou lève la main, ce sera un ouf de soulagement pour l'Union européenne et les États-Unis, lesquels ont parlé d'actes de cruauté ou de cynisme pour qualifier la position russe. Mais vu d'Afrique, une telle attitude sera appréciée à l'aune de cette géopolitique, dont par exemple le Sahel est le théâtre in vivo. Chic News. Accord céréalier, l'Ukraine brave-t-elle le blocus russe en mer Noire ? Les menaces décrétées par la Russie contre les navires rejoignant les côtes ukrainiennes ont été bravées par plusieurs embarcations, dont deux le 2 septembre. Mais le trafic est loin d'être libéré de toute contrainte. L'annonce a été faite le 2 septembre par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De nouveaux navires ont emprunté avec succès notre corridor céréalier temporaire de la mer Noire. L'Ukraine rétablit une véritable liberté de navigation en mer Noire. Comme le vice-premier ministre à la restauration de l'Ukraine l'avait détaillé dans un tweet datant du 1er septembre, les deux derniers navires qui ont quitté le port d'Odessa sont le Anna Teresa et le Ocean Courtesy, chargés, d'après Alexandre Kubrakov, de 56 000 tonnes de fonte brute et 172 000 tonnes de concentré de minerais de fer. Le premier, sous pavillon libérien, a passé le détroit de Bosphore, tandis que l'autre, qui vogue sous les couleurs panaméennes, s'est visiblement arrêté dans le port roumain de Constance. L'annonce intervient un mois après l'arrêt par la Russie de l'accord sur l'exportation de céréales qui courait depuis juillet 2022 et garantissait l'exportation de denrées ukrainiennes dans certaines conditions. Moscou avait multiplié les entraves à son fonctionnement avant de tout simplement ne pas le reconduire. Intimider armateurs et États. La décision russe de mettre fin à cet accord avait été assortie de menaces explicites. Tous les navires naviguant dans la mer Noire vers les ports ukrainiens seront considérés comme des transporteurs potentiels de marchandises militaires, soit comme des cibles, avait déclaré le ministre de la Défense russe. Et d'ajouter qu'en conséquence, le pays battant pavillon de ces navires seront considérés comme impliqués dans le conflit ukrainien aux côtés du régime de Kiev. En d'autres termes, la volonté de Moscou était de décréter un blocus sur les ports ukrainiens et d'intimider armateurs et États pour les dissuader d'affréter des bateaux vers l'Ukraine. Des mises en garde accompagnées d'un bombardement incessant des infrastructures portuaires ukrainiennes, frappe qui continuait ce début de semaine. Ce blocus russe a toutefois été rapidement défié. Dans les semaines précédant la fin de l'accord, plusieurs navires ont touché les ports du Danube, mais de moindre volume que les embarcations qui s'aventuraient auparavant jusqu'à Odessa. Mi-août, Kiev a annoncé la mise en place d'un corridor humanitaire en mer Noire, afin de faire sortir les navires qui n'étaient pas concernés par l'accord céréalier, coincés depuis le premier jour de la guerre. Le 16 août, le porte-conteneur Joseph Schulte, immatriculé à Hong Kong, était le premier à ouvrir la voie, quittant le port d'Odessa, avec plus de 30 000 tonnes de cargaison, avant d'être observé par l'analyste et spécialiste maritime Yoruk Isik le 20 août dans le détroit du Bosphore en Turquie. 10 jours après, le vraquier Primus, sous pavillon libérien et possédé par une entreprise singapourienne, quittait à son tour les côtes ukrainiennes remplies de produits sidérurgiques à destination du Sénégal. Les deux navires ayant quitté Odessa ce week-end sont donc les 3e et 4e. Une guerre de symboles. Depuis l'annonce de sa mise en place, ce corridor humanitaire depuis Odessa est présenté comme une première étape vers le rétablissement des échanges. Dans une intervention à la télévision ukrainienne le 16 août, le ministre Oleksandr Kubrakov avait présenté le corridor comme un moyen de rassurer États et armateurs. D'une part, du fait des protections que l'armée ukrainienne aurait disposées le long de la côte. D'autre part, une assurance financière directement proposée par l'État ukrainien afin de remédier aux défauts d'assureurs privés effrayés par la menace russe. Contacté par Czech News, Timofey Milovanov, ancien ministre ukrainien de l'économie et président de l'école d'économie de Kiev, analyse ainsi la situation. Avec ses actions en mer Noire, la Russie augmente le coût de transport vers l'Ukraine. Et cette guerre est aussi une guerre de symboles. Ici, il s'agit aussi de ne pas accepter les agissements russes en mer Noire, de résister à l'attaque de bateaux et d'infrastructures civiles, mais aussi à l'instabilité alimentaire mondiale générée par les agissements russes. Les 4 bateaux sortis d'Odessa ne suffisent pourtant pas à évoquer encore une véritable liberté de navigation en mer Noire, comme l'a avancé la présidence ukrainienne. Si quelques bateaux sortent d'Odessa, aucun n'y entre pour l'instant bien, et la Russie maintient son pouvoir de nuisance dans la zone, sans être disposée à relâcher l'étreinte économique. Lundi, les négociations entre les présidents russes et turcs sur un nouvel accord céréalier avec la Russie sont restées dans la passe. C'est tout. Et cette arme verte est un excellent moyen de génocide.
Le génocide par le manque de céréales. C'est,
ah oui, c'est un, oui, truc un génocide verte, un génocide, oui, alimentaire.
Oui.
Bah, tu as faim, et en même temps, vu que c'est l'Afrique qui est principalement touchée, non seulement ça l'affame financièrement, encore plus, on peut dire qu'ils sont dans une, pas, pardon du terme employé, mais une merde financière à même échelle que la Grèce.
Ouais, bah ça.
On peut vraiment mettre ces deux pays en parallèle. Et en même temps, qu'est-ce que ça rappelle? C'est un acte raciste. Il faut appeler un chat à chat. Voilà.
Donc, je vais vous proposer des rendez-vous pour être proche de l'Union pacifiste. Le congrès de l'Union pacifiste de France aura lieu au local de la CNT à Paris, 33 rue des Vignoles, métro Avron ou Buzenval, le samedi 21 octobre. À 10h, ce sera une assemblée générale avec, pour les adhérents uniquement. À 14h, ouverture au public. Les thèmes seront l'histoire de l'UPF, principaux combats menés hier et aujourd'hui, point sur l'actuelle situation du pacifisme en général et de l'association en particulier. À 15h30, il y aura une vidéo de campagne contre le SNU et débat avec le collectif non au SNU. Et à 17h30, soyez nombreux à venir. Il y aura la projection du film de Pedro Fidalgo, N'effacez pas nos traces. C'est un film qu'il a fait sur Dominique Grange, une chanteuse engagée. Et il sera présent avec l'équipe du film. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Couleur d'Orange, le samedi 14 et le dimanche 15, de 14h à 19h, à Montreuil, 9 rue Barbès, métro Robespierre. Là, vous pourrez rencontrer aussi Nathalie Solance, Claude Guen, parce que c'est dans leur local que s'organisent ces expositions. Là, vous pourrez trouver plein de choses, livres, CD, affiches, tout ça. Et il y aura un week-end de soutien à l'Union pacifiste. Là, ce sera pour novembre. Le 25 et le 26 novembre, à Librairie Publico, 145 rue Hamelot, dans le 11e. Métro Fille du Calvaire, comment ça s'appelle l'autre station là, en dehors de République? Oberkampf, oui, c'est mieux.
Oberkampf est le plus proche.
Oui, oui. Et c'est mieux parce qu'en ce moment, il y a tellement de manifestations que des fois, on bouche la sortie de République. Donc, oui. Oberkampf et Fille du Calvaire, ce sont les deux meilleurs. Mmh. Voilà. Donc, le 25 novembre à 15h, vous pourrez, ceux qui n'auront pas vu la vidéo de campagne contre le SNU, ça sera représenté à 15h, vous pourrez le revoir. Et le débat sera animé par Bernard Bessa, qui est notre ami de l'UP, qui se bagarre contre, depuis le début du SNU, il fait une campagne vraiment très très forte pour pas envoyer les enfants et les petits-enfants au casse-pipe, que ce soit garçon ou fille. Hein. Le 26 novembre à 15h, il y aura un concert de soutien avec Fabienne El Koubi, Rémi Tarrier, Pedro Figaldo, qui chantera des chansons portugaises, Nathalie Solans et Philippe Alterac. Et la présentation de ce concert sera avec notre ami Bruno Daraki. Voilà. Et pendant ces deux jours, il y aura une exposition d'affiches antimilitaristes de la collection de Joël Vacher. Voilà. Donc, une petite pause musicale, et après Elsa vous lira un texte de Bertrand de Jouvenel, Le Pouvoir.
Vous qui méprisez la jeunesse, vous qui ne savez l'écouter, vous qui ne voyez que les fesses des filles et passez à côté de ce qu'elles ont dans la cervelle, sous leur chevelure mal peignée, se foutant de paraître belles à votre pauvre désignée. Halte au con. Vous qui qualifiez de loubards tous les taggers et les rappeurs, et pire encore quand ils sont noirs, vous qui souvent en avez peur sans que jamais dans votre tête vous n'entachiez d'un moindre doute cette certitude simplette d'avoir choisi la bonne route. Mort au con. Vous auriez pu imaginer que s'ils se mettent à l'écart de votre monde suranné en vous qualifiant de ringard, c'est peut-être de votre faute. N'en avez-vous la moindre idée? Et votre morale, s'ils la sautent, qu'avez-vous fait pour les aider? Pauvre con. Vous qui vous mettez des œillères pour ne pas voir les sans-logis, et dans des oreilles des pierres pour ne pas entendre les cris des torturés, des isolés, des victimes de toutes les guerres, enfants tués, femmes violées, familles expulsées de leurs terres. Honte aux cons. Vous qui mettez dans le même sac drogués, homos, gitans, poètes, et appréhendez leurs attaques quand ils redressent un peu la tête, vous qui vous donnez bonne conscience en pratiquant dans vos églises le culte de l'intolérance sans voir les couteaux qui s'aiguisent. Mort aux cons. Vous qui méprisez la sagesse de ceux qui possèdent un passé, ceux qui prolongent leur jeunesse sans jamais vouloir l'oublier, vous qui croyez qu'après 30 ans c'en est fini de la gamberge, qui ignorez qu'à 60 ans on peut être plus jeune qu'à 20 berges. Pauvre con! Vous ne mettez pas en question ce piètre confort imbécile d'un petit bonheur sous gestion d'une imagination stérile. Vous êtes des clones de milliers de pauvres cons sur la planète pour qui seuls comptent les billets qu'ils entassent dans leurs cachettes. Honte aux cons! Halte aux cons!
Tous des cons. Voilà. Merci Michel Valette d'avoir écrit cette superbe chanson tirée de son album « J'ai connu des gens merveilleux ». Lui, c'était quelqu'un de merveilleux. Gérard l'avait reçu déjà dans son émission, quelques années. À toi.
Alors, continuons avec la réflexion de Bertrand de Jouvenel dans son livre « Du pouvoir ». Caractère historique de l'obéissance. L'obéissance à la vérité résulte de sentiments très divers qui fournissent au pouvoir une assise multiple. Necker écrivait « Il n'existe ce pouvoir, a-t-on dit, que par la réunion de toutes les propriétés qui forment son essence. Il tire sa force et des secours réels qui lui sont donnés et de l'assistance continuelle de l'habitude et de l'imagination. Il doit avoir son autorité raisonnée et son influence magique. Il doit agir comme la nature et par des moyens visibles et par un ascendant inconnu. La formule est bonne, à condition de n'y pas voir une énumération systématique exhaustive. Elle met en lumière la prédominance des facteurs irrationnels. Il s'en faut qu'on obéisse principalement parce qu'on a pesé les risques de la désobéissance ou parce qu'on identifie délibérément sa volonté à celle des dirigeants. On obéit essentiellement parce que c'est une habitude de l'espèce. Nous trouvons le pouvoir en naissant à la vie sociale, comme nous trouvons le père ne naissant à la vie physique. Similitude qui a inspiré combien de fois leur comparaison et l'inspirera encore en dépit des objections les mieux fondées. Le pouvoir est pour nous un fait de nature. Si loin que remonte la mémoire collective, il a toujours présidé aux vies humaines. Aussi, son autorité présente rencontre en nous le secours de sentiments très anciens que, sous ses formes successives, il a successivement inspirés. Telle est la continuité du développement humain, dit Fraser dans son livre « Lectures on the Early History of Kinship », publié à Londres en 1905. Que les institutions essentielles de notre société ont pour la plupart, sinon toutes, de profondes racines dans l'état sauvage et nous ont été transmises avec des modifications plutôt d'apparence que de fond. Les sociétés, et celles même qui nous paraissent le moins évoluées, ont un passé maintes fois millénaire et les autorités qu'elles subirent autrefois n'ont pas disparu sans léguer leur prestige à leurs remplaçantes ni sans laisser dans les esprits des empreintes qui se surajoutent. La suite des gouvernements d'une même société au cours des siècles peut être regardée comme un seul gouvernement qui subsiste toujours et s'enrichit continuellement. Aussi, le pouvoir est-il moins un objet de la connaissance logique que de la connaissance historique ? Et nous pourrions sans doute négliger les systèmes qui prétendent ramener ces propriétés diverses à un principe unique, fondement de tous les droits exercés par les titulaires du commandement, cause de toutes les obligations qu'ils imposent. Ce principe est tantôt la volonté divine dont ils seraient les vicaires, tantôt la volonté générale dont ils seraient les mandataires, ou encore le génie national dont ils seraient l'incarnation, la conscience collective dont ils seraient les interprètes, le finalisme social dont ils seraient les agents. Pour que nous reconnaissions dans quelqu'une des entités énoncées ce qui fait le pouvoir, il faudrait évidemment qu'il ne puisse exister aucun pouvoir où la dite force est absente. Or, il est patent qu'il y avait des pouvoirs à des époques où le génie national eût été une expression vide de sens, où on n'en peut citer qu'aucune volonté générale ne soutenait, bien au contraire. Le seul système qui satisfasse à la condition fondamentale d'expliquer tout. Le seul système qui satisfasse à la condition fondamentale d'expliquer tout pouvoir quelconque est celui de la volonté divine. Saint Paul disant « Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et celles qui existent ont été instituées par Dieu. » Et cela sous Néron même a fourni aux théologiens une explication qui est la seule à embrasser tous les cas de pouvoir. Les autres métaphysiques y sont impuissantes. À vrai dire, elles n'y prétendent pas. Ce sont de pseudo-métaphysiques où la préoccupation analytique disparaît plus ou moins complètement sous la préoccupation normative. Non plus que faut-il au pouvoir pour être pouvoir, mais que lui faut-il pour être bon ? Statique et dynamique de l'obéissance. Devons-nous donc laisser de côté ces théories ? Non pas, car ces représentations idéales du pouvoir ont accrédité dans la société des croyances qui jouent un rôle essentiel dans le développement du pouvoir concret. On peut étudier les mouvements célestes sans s'inquiéter de conceptions astronomiques qui ont été accréditées mais ne répondent pas à la réalité des faits parce que ces croyances n'ont en rien affecté ces mouvements. Mais s'agissant des conceptions successives du pouvoir, il n'en est plus de même car le gouvernement, lui, est un phénomène humain, profondément influencé par l'idée que les hommes se font de lui. Et précisément, le pouvoir s'étend à la faveur des croyances professées à son endroit. Reprenons en effet notre réflexion sur l'obéissance. Nous l'avons reconnue causée de façon immédiate par l'habitude. Mais l'habitude ne suffit à expliquer l'obéissance qu'autant que le commandement se tient dans les limites qui lui sont habituelles. Dès qu'il veut imposer aux hommes des obligations dépassant celles à quoi ils sont rompus, il ne bénéficie plus d'un automatisme de longue date créé dans le sujet. Pour un incrément d'effet, un plus d'obéissance, il faut un incrément de cause. L'habitude ici ne peut servir, il faut une explication. Ce que la logique suggère, l'histoire le vérifie. C'est en effet aux époques où le pouvoir tend à grandir qu'on discute sa nature et les principes en lui présent qui causent l'obéissance. Que ce soit pour assister sa croissance ou pour y faire obstacle. Ce caractère opportuniste des théories du pouvoir rend compte d'ailleurs de leur impuissance à fournir une explication générale du phénomène. Dans cette activité particulière, la pensée humaine a toujours suivi les deux mêmes directions, répondant aux catégories de notre entendement. Elle a cherché la justification théorique de l'obéissance et en pratique répandu des croyances rendant possible un accroissement d'obéissance, soit dans une cause efficiente, soit dans une cause finale. En d'autres termes, on a affirmé que le pouvoir devait être obéi, soit parce que, soit en vue de. Dans la direction du parce que, on a développé les théories de la souveraineté. La cause efficiente de l'obéissance, a-t-on dit, réside dans un droit exercé par le pouvoir qui lui vient d'une majestas qu'il possède, incarne ou représente. Il détient ce droit à la condition nécessaire et suffisante d'être légitime, c'est-à-dire à raison de son origine. Dans l'autre direction, on a développé les théories de la fonction étatique. La cause finale de l'obéissance, a-t-on dit, consiste dans le but que poursuit le pouvoir et qui est le bien commun, de quelque façon que d'ailleurs on le conçoive. Pour qu'il mérite la docilité du sujet, il faut et il suffit que le pouvoir recherche et procure le bien commun. Cette classification simple embrasse toutes les théories normatives du pouvoir. Sans doute, il en est peu qui ne se réclament à la fois de la cause efficiente et de la cause finale, mais on gagne beaucoup en clarté à considérer successivement tout ce qui se rapporte à l'une puis à l'autre catégorie. Avant d'entrer dans le détail, voyons si, à la lumière de cet aperçu, nous ne pouvons pas nous faire une idée approchée du pouvoir. Nous lui avons reconnu une propriété mystérieuse qui est, à travers ses avatars, sa durée, lui conférant un ascendant irraisonné, non justiciable de la pensée logique. Celle-ci distingue en lui trois propriétés certaines. La force, la légitimité, la bienfaisance. Mais à mesure qu'on tâche de les isoler comme des corps chimiques, ces propriétés se dérobent. Car elles n'ont pas d'existence en soi et n'en prennent que dans les esprits humains. Ce qui existe effectivement, c'est la croyance humaine dans la légitimité du pouvoir. C'est l'espoir en sa bienfaisance. C'est le sentiment qu'on a de sa force. Mais bien évidemment, il n'a de caractère légitime que par sa conformité avec ce que les hommes estiment le mode légitime du pouvoir. Il n'a du caractère bienfaisant que par la conformité de ses buts, parce que les hommes croient leur être bons. Il n'a de force, enfin, dans la plupart des cas du moins, qu'au moyen de celle que les hommes croient devoir lui prêter. L'obéissance liée au crédit. Il nous apparaît donc que dans l'obéissance, il entre une part énorme de croyances, de créances, de crédits. Le pouvoir peut être fondé par la seule force, soutenu par la seule habitude, mais il ne saurait s'accroître que par le crédit qui n'est logiquement pas inutile à sa création et à son entretien et qui, dans la plupart des cas, ne leur est pas historiquement étranger. Sans prétendre ici le définir, nous pouvons déjà le décrire comme un corps permanent auquel on a l'habitude d'obéir, qui a les moyens matériels de contraindre et qui est soutenu par l'opinion qu'on a de sa force, la croyance dans son droit de commander, sa légitimité, et l'espoir qu'on met dans sa bienfaisance. Il n'était pas inutile de souligner le rôle du crédit dans l'avancement de sa puissance. Car on comprend maintenant de quel prix sont pour lui les théories qui projettent certaines images dans les esprits. Selon qu'elles inspirent plus de respect pour une souveraineté, conçue comme plus absolue, selon qu'elles éveillent plus d'espoir dans un bien commun, plus précisément évoqué, elles fournissent au pouvoir concret une assistance plus efficace, elles lui ouvrent la voie et préparent ses progrès. Chose remarquable, il n'est même pas nécessaire, pour aider au pouvoir, que ces systèmes abstraits lui reconnaissent cette souveraineté ou lui confient la tâche de réaliser ce bien commun. Il suffit qu'elles en forment les concepts dans les esprits. Ainsi, Rousseau, qui se faisait une très grande idée de la souveraineté, la déniait au pouvoir et la lui opposait. Ainsi, le socialisme, qui a créé la vision d'un bien commun infiniment séduisant, ne remettait nullement au pouvoir le soin de le procurer, mais au contraire, réclamait la mort de l'État. Il n'importe, car le pouvoir occupe dans la société une place telle que cette souveraineté tellement sainte, lui seul est capable de s'en emparer, ce bien commun tellement fascinant, lui seul apparaît capable d'y travailler. Nous savons à présent sous quel angle examiner les théories du pouvoir. Ce qui nous intéresse en elles, c'est essentiellement le renfort qu'elles apportent au pouvoir. Fin du premier chapitre.
Merci Elsa. Voilà. Donc, il est 19h22, nous allons vous quitter en souhaitant que cette émission vous ait plu. Et si vous voulez la réécouter, allez sur le site de Radio Libertaire dans le podcast de Civispacem. C'est le premier jeudi de chaque mois. Nous nous retrouvons le 2 novembre voilà, pour une prochaine belle émission. Voilà. Merci Elsa pour toute cette belle lecture.
Merci à toi aussi, papa.
Voilà. Donc, le générique, et après, vous aimez le jazz, nous aussi, ce sera Jazz Yves qui va prendre la succession. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celles de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Quelqu'un achève sur une enclume un rond de fer. C'est un sou, un soleil, une thune qu'il lance en l'air. Quand vient la nuit, la belle, la brune, tout en mystère, à pile ou face, face de lune, joue Lucifer. L'hostie du diable, dit l'un ou l'une, c'est son affaire.
Pourquoi ces canons au bruit étonnant? Pourquoi ces canons pour faire la guerre, mon enfant? Pourquoi plus souvent qu'on ne l'imagine? Faisons-nous la guerre aux gens, ça fait marcher les usines. Pourquoi ces usines qui n'ont rien qui vaille? Pourquoi ces usines, ça donne aux gens du travail? Pourquoi ce travail dur et fatigant? Pourquoi ce travail, c'est pour gagner de l'argent. Pourquoi cet argent est-il donc si bon? Pourquoi cet argent pour acheter des canons? pourquoi ces canons qui nous coûtent tant? Pourquoi ces canons pour faire la guerre, mon enfant?
C'est pas ton frère s'il se nettoie, neige à Noël, pas qu'au balcon. Encore faut-il avoir un toit, au con que les dictons sont cons. Un âne averti en vaut deux, pour vivre heureux, prends ton cachet. Il faut pas casser les mêmes œufs dans le même panier.
Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4, vous êtes donc en direct des studios. Jazz Libre, c'est une émission de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Je vous rappelle le numéro du studio, 01 43 71 89 40. Laurent à la réalisation technique, et puis n'oubliez pas de vous connecter sur le site de Radio Libertaire. Alors je disais toujours radiolibertaire.net, mais en fait c'est .org, hein, donc veuillez m'excuser. Il y a l'agenda tenu par la majorité des émissions. Vous pouvez réécouter en podcast à partir de la fin de la diffusion pendant un an. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, de temps en temps sur ma page Instagram Jazz Libre l'émission. Ma page Facebook, c'est Yves Jazz Libre, et sur lequel je mets l'ensemble des informations et la playlist. Et donc, si vous avez besoin de renseignements particuliers, vous m'envoyez un mail à dk51@sfr.fr. Que voulais-je vous dire d'autre? N'oubliez pas, oui, d'aller sur le site toujours de la radio et du Monde Libertaire pour télécharger la souscription. Nous avons besoin de votre soutien financier pour renouveler le matériel, pour maintenir les émissions et éviter qu'il y ait des gremlins dans les machines. Voilà, alors ce soir, nous retrouvons une certaine logique qui avait fait un peu défaut ces temps-ci pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Nous avons eu aussi un invité, Diego Humbert, et nous en aurons d'autres. Je vous annonce donc que nous aurons Pierrick Pedron pour son duo avec Gonzalo.